Nous avons vu que cette portion de l'Écriture tient une place toute particulière dans la parole. Elle est pour les disciples. Elle s'adresse à eux. C'est pour le temps de l'absence du Seigneur. Alors le Seigneur était là avec eux, il les enseignait. Bientôt, il allait être caché à leur regard. Mais ce que l'on allait pouvoir voir et ce qui allait être produit, c'est ce fruit à travers les siens. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes sur cette terre, alors que Dieu aurait pu nous reprendre à notre conversion. Nous étions propres pour le ciel, lavés de nos péchés dans le précieux sang de Christ. Nous aurions pu ainsi entrer dans la gloire. Mais si nous sommes encore là, Dieu avait un but pour les siens. Il veut nous former pour lui. Il veut nous donner à connaître quelque chose de sa grâce, de son amour, apprendre à nous connaître, apprendre à connaître davantage celui qui est le grand berger des brebis. Et aussi, dans cette connaissance et cet attachement à une telle personne, il y ait dans nos vies de racheter quelque chose qui demeure et demeure pour l'éternité. Nous avons parlé du fruit. Le sarment, ce n'est pas dans son agitation qu'il produira du fruit, c'est une impossibilité. Mais nous avons sommes arrêtés à ces termes, à demeurer attachés au cep. Nous avons dit que quelques centièmes de millimètre ou quelques kilomètres qui nous séparent du cep, la sève ne peut pas passer, le sarment ne sera pas ce canal qui servira simplement à transporter la sève jusqu'au fruit. Ce n'est pas d'être la préoccupation du racheter, de savoir et de vouloir plutôt porter du fruit, mais que ce soit cet état normal, dans cette communion avec lui, dans cet attachement avec le Seigneur. À ceci tous connaîtront, vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous, si vous portez du fruit. Et pour cela, nous avons besoin d'être attachés à la parole, mais que nos cœurs soient attachés à cette personne adorable et bénie, celui qui vient se présenter ici comme le vrai cep, la source, la seule source de toute vie, où il restera quelque chose pour le Seigneur. Tout ce qui est en dehors de lui, il ne restera rien. Mais tout ce qui aura été fait par lui, par sa grâce, dans nos vies, c'est ce qui restera pour l'éternité. Et cela est sérieux. Il est dit de ceux qui ne portent pas de fruits, de ceux qui portent quelques fruits, et le Père est glorifié parce que vous porterez beaucoup de fruits. Nous ne savons pas combien de temps nous avons encore à marcher dans ce monde. Nous attendons le Seigneur comme celui qui vient. Dans la gloire, nous ne parlerons plus de service, nous ne parlerons plus de porter du fruit. Et nous sommes arrêtés sur ce fruit. Qu'est-ce que pouvait être ce fruit? Oh, c'est l'obéissance à la parole, d'abord, qui va le produire. Et les disciples ont eu affaire avec le maître, ils ont eu affaire avec le cep. Et celui qui pouvait dire ici, demeurez attaché au cep, écrira dans cette première lettre de Jean, il écrira au chapitre 2 et 3, de nombreuses fois, demeurez, c'est le secret, l'habitation du racheté, c'est en Christ. Et celui qui pouvait écrire l'Apocalypse pouvait être encore celui qui, dans son isolement, isolé à Patmos, pouvait demeurer attaché, peut demeurer dans le Seigneur. Tout au début, l'Écriture, il est de cet évangile, est dit, où demeures-tu? Et lui, se retournant, leur dit, que cherchez-vous? Où demeures-tu? Et ils demeurèrent ce jour-là avec lui. Dès le début de notre vie chrétienne, chair rachetée, le secret, et le seul secret pour que ces vies ne soient pas stériles, mais que le Seigneur voit quelques fruits pour lui et que le Père soit glorifié, c'est de cet attachement à cette personne. Il nous est parlé là du vrai cep, il nous est parlé de ce divin vigneron qui se penche, qui regarde, qui émonde, mais un seul but. Et nous l'avons dit, il a parlé de la discipline que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Parce que vous êtes fils, le Seigneur discipline. C'est pas parce que vous n'êtes pas fils, c'est pas parce qu'il n'y a pas du fruit dans nos vies, mais parce qu'il veut qu'il y ait plus de fruits. Puissions-nous ainsi retirer de cette lecture de la parole, de ce contact avec celui qui est au milieu des siens, et qui veut les enseigner quelque chose de durable pour cette vie et quelque chose pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Unis et rachetés au Seigneur, c'est l'amour. Et c'est ce que nous allons trouver immédiatement. Je vous ai aimé. Et il donne de cet amour, de son cœur pour les disciples, la mesure la plus élevée, comme le Père m'a aimé. Moi aussi, je vous ai aimé. Les termes de l'Écriture sont toujours bien pesés, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme le Père même. Il ne s'agit pas ici de l'amour éternel du Père, de ce qui remplit l'éternité passée et l'éternité à venir. Mais il s'agit du bon plaisir que le Père a trouvé dans le Fils cheminant dans le monde. Le Seigneur se présente toujours là, dans ce chapitre, comme celui qui a été le premier, le témoin, l'envoyé du Père. Et dans un tel chemin, il a été l'objet des affections du Père d'une façon toute particulière. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est sur un fils sur la terre, aussi bien au Jourdain que sur la haute montagne, que cette parole est dite. Comme le Père m'a aimé, comme le Père l'a aimé, lui, cheminant en perfection sur la terre. Ainsi était son amour pour ses disciples. Moi aussi, je vous ai aimé. Le Fils avait donné au Père tout sujet de l'aimer. Et il allait lui donner un sujet suprême. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi, je laisse ma vie. Mais quel sujet les disciples avait-il donné au Seigneur pour les aimer? Simplement, ils avaient cru. Ils avaient reçu sa parole. Et voilà cet amour déversé sur eux. Un amour de même nature que cet amour du Père pour le Fils cheminant en perfection sur la terre. L'amour du Seigneur pour les disciples, bien faiblement attachés à lui, plein d'inconséquences sans doute, mais qui pouvait dire, un Simon-Pierre pouvait dire, quand il était sondé par le Seigneur, « Tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Moi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Nous avons trouvé demeurer en lui. Si vous demeurez en moi, que vos paroles, que mes paroles demeurent en vous, et maintenant demeurez dans son amour. » C'est un sens particulier du fait de demeurer en lui. C'est demeurer là dans le sentiment de cet amour pour nous. Nul n'était qualifié pour écrire ces choses comme Jean. Jean, il est dans tout cet évangile, il est le disciple que Jésus aimait. Il était lui-même l'exemple de ce que le Seigneur attendait des siens. Il demeurait dans l'amour du Seigneur. Il jouissait de son amour. Nulle question de ses affections à lui, si imparfaites, mais il était celui que le Seigneur aime. Et c'est ce que le Seigneur veut imprimer dans nos cœurs à chacun. Je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé. Demeurez dans mon amour. Mais comment demeurons-nous dans son amour? L'amour est réciproque. Parce que lui, il nous a aimés le premier, nous, nous l'aimons en retour. Et comment ces affections en retour se manifesteront-elles? On l'a souvent dit, la marque essentielle de l'amour, c'est l'obéissance. C'est ce que lui-même dit, de lui-même et de ses relations avec le Père précédemment. Il a aimé et il a obéi. Parce que j'aime le Père, ainsi je fais. Selon que le Père m'a commandé. Dernier verset du chapitre 14. Selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Et c'est la manifestation de son amour pour le Père. Eh bien, si vous demeurez dans mon amour, ce sera manifesté par le fait de garder ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Comme c'est touchant de voir, et à plusieurs reprises dans ces chapitres, la façon dont le Seigneur nous assimile à lui et assimile nos relations avec lui-même à ses propres relations avec le Père. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie. Le chemin du Seigneur dans l'obéissance était un chemin de douleur, de souffrance. C'est l'homme de douleur, sachant ce que c'est que la langueur. Et c'est de son obéissance même que résultaient toutes ses souffrances. C'est de sa fidélité que résultait l'opposition, la contradiction des pécheurs contre lui-même. Mais ce chemin était un chemin de joie. Il cheminait dans la communion ininterrompue avec son Père. Sa viande, sa raison d'être, toute la satisfaction intérieure de son être, c'était d'accomplir l'œuvre du Père. C'était de cheminer dans ce sentier d'obéissance. Moi, j'ai gardé les commandements, je demeure dans son amour, je garde ses commandements, je les ai gardés. Et c'est là un chemin de joie. C'est la joie même du Seigneur. Il s'agit là de la joie du Seigneur dans son chemin d'obéissance, dans l'amour du Père. Et ce qu'il veut, c'est que cette même joie soit la nôtre. Que ma joie soit en vous. La joie de celui qui, au moment même où il était le rejeté, et où il devait constater son rejet. Malheur à toi, Corisa, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Corazine. Pouvait dire, pouvait se réjouir en esprit. À cette heure même là, Jésus se réjouit en esprit et dit, Père, je te loue. Est-ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, tu les as révélées aux petits-enfants? C'est ce que tu as trouvé bon devant toi, l'entière dépendance. l'obéissance heureuse, Jésus se réjouit en esprit. La joie du Seigneur cheminant ainsi, dans un sentier de douleur, cette joie, il la voulait dans les siens. Comment ? En ce qu'il demeure dans son amour, qu'il garde ses commandements. Et le verset 14 nous présente ce que nous a déjà présenté le chapitre 13, son commandement, son premier commandement.
L'amour qui s'est déployé pour le salut des pécheurs. L'amour insondable qui s'est manifesté, ou pourrions dire qui a éclaté à la croix du calvaire. Mais ici, c'est l'amour qui doit remplir le cœur des rachetés. Ce n'est pas une chose importante de connaître des vérités. Savoir que le Seigneur nous aime d'un tel amour. Savoir ainsi que toutes ses compassions, toute sa miséricorde, toute sa grâce repose sur nous. Je peux le savoir, je peux le croire, mais c'est pas là l'essentiel. C'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est d'en jouir. Et c'est dans la jouissance d'un tel amour que je pourrais trouver la force morale et la force spirituelle pour marcher sur les traces de mon divin maître. Et le Seigneur nous montre là le secret, je pourrais dire, le secret pour que nous réalisions ces choses dans nos cœurs. Combien le Seigneur est réjoui quand il voit son racheté se nourrir de son amour, s'abreuver de son amour, se reposer dans son amour. Quelle joie pour le Seigneur, quelle joie. Et alors le secret, et c'est comme on l'a dit toujours, c'est l'obéissance, c'est l'obéissance. Si nous gardons ses commandements, eh bien nous demeurerons dans son amour, dans son amour. C'est le secret. Ne prétendons pas jouir de l'amour du Seigneur si nous avons un chemin qui ne répond pas à la pensée du Seigneur. À la pensée du Seigneur. Dans ce sens-là, nous pouvons dire que le Seigneur est très exigeant. Très exigeant. Il ne veut pas que nos cœurs soient partagés. Il ne veut pas affection d'un, témoigner de l'affection, l'amour pour ceci, ou bien un peu pour les choses d'en haut. S'installer un peu dans le monde et puis quand même s'occuper des choses de dans ce... Non. Il n'y a rien d'aussi dangereux que le mélange. Rien d'aussi dangereux que le mélange. On perd toute sa force quand on n'est pas décidé dans le chemin que le Seigneur nous a tracé. Ce que le Seigneur veut, c'est tout notre cœur. Pas qu'une partie, c'est tout notre cœur. Ce que le Seigneur veut, il veut remplir notre cœur tout entier de son amour, de son amour. Et ce n'est pas un chemin pénible, ce n'est pas un chemin, comment je dirais, de contrainte pour nous. Non, non, c'est l'amour du Sauveur qui doit attirer nos cœurs, attirer nos cœurs. Et dans ce sentier-là, ayant fermé le cœur aux choses qui peuvent me distraire, dans ce sentier-là, je connais à la fois l'amour de Jésus, sa joie et sa paix. Parce que le Seigneur nous donne tout, nous donne tout. Et il ne donne pas comme le monde donne, parce que le monde, quand il donne une chose, il ne l'a plus. Mais le Seigneur nous donne les choses en nous amenant dans sa communion et en nous faisant jouir de cet amour, de sa paix, de cette paix et de cette joie qui sont les siens. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Quel sentier que ce sentier-là. Quel sentier. Nous savons très bien que la source de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que Dieu a accompli, de tout ce qu'il a réalisé ainsi à l'égard de l'homme, où est la source? Son amour. C'est son amour. Vous ne pouvez pas expliquer autrement. C'est son amour. Eh bien, combien nous devrions être attentifs, et comprendre un peu mieux chaque jour que le Seigneur a le droit d'avoir tout notre cœur. Il a le droit ainsi. Et que nous nous laissions ainsi enseigner et conduire par ces choses. Nous savons très bien que le Seigneur ne pouvait pas perdre la faveur de Dieu. Nous savons très bien qu'il ne pouvait pas être séparé de l'amour de Dieu. Et pourtant, il me dit, j'ai gardé ses commandements et je demeure dans son amour. C'est dans un chemin d'obéissance dans lequel le Seigneur a marché en perfection et dans lequel il nous invite à marcher en le suivant pour que nous puissions le glorifier en manifestant ses choses.
Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Eh bien, ça veut dire qu'il y a des choses que le Seigneur voudrait partager avec vous et moi. Alors, ça veut dire que c'est intéressant et important de voir quelles sont les choses que le Seigneur appelle les siennes dans ces chapitres. Et nous trouvons qu'il y a quatre choses dont il dit qu'ils sont mon ou ma, les siens. Et d'abord, nous trouvons dans le chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Il nous laisse la paix qu'il avait préparée sur la croix, la paix pour tout péché qui est converti au Seigneur, mais il nous donne aussi sa paix. Ça veut dire sa paix personnelle dans toutes les circonstances dans lesquelles il se trouvait ici sur la terre. Et maintenant, dans nos versets, nous trouvons la deuxième et la troisième chose. Il nous parle ici de son amour, mon amour, demeurer en mon amour, et il nous parle aussi de sa joie, afin que ma joie soit en vous. Mon amour, ça c'est l'atmosphère qu'il nous donne où nous pouvons respirer. Une nouvelle atmosphère où nous pouvons nous trouver, où nous pouvons vivre chaque jour. Et aussi sa joie, les choses qu'il a réjouies ici sur la terre. Et c'est bien nécessaire de voir qu'il y a une distinction ici entre sa joie et notre joie. Ça, ce n'est pas nécessairement la même chose. Il nous dit « afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie ». Et nous savons bien que notre joie n'est pas nécessairement toujours sa joie. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses dont nous nous réjouissons qui sont mauvaises, mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous donne ici sur la terre, les choses terrestres, des bénédictions terrestres, nous pouvons penser des choses pour lesquelles nous lui rendons grâce. Souvent, ce sont des choses terrestres. Eh bien, ils sont notre joie. Mais pas nécessairement sa joie. Sa joie, c'était d'être aux affaires de son Père. Ça, c'est une autre joie. Ça, c'est une joie dans les choses qui sont éternelles et célestes. Et il prie ici, il nous exhorte que notre joie soit accomplie, soit rendue en harmonie avec sa joie. Et il prie lui-même dans le chapitre 17, afin qu'il ait ma joie accomplie en eux-mêmes. Et ça doit être le désir de nos cœurs aussi, que notre joie est vraiment la même joie que la joie du Seigneur. Que les intérêts de nos cœurs sont vraiment les intérêts de celui qui se trouve à la droite de Dieu, à la droite du Père. que nos joies sont vraiment dans les choses qui sont éternelles et célestes, aux affaires de son Père qui est devenu notre Père. Il ne faut pas oublier la quatrième chose que nous trouvons. C'est dans le chapitre 17, mais ce n'est pas maintenant notre sujet. C'est sa gloire. La gloire dont il dit « ma gloire ». D'une part, une gloire dont il dit dans le verset 22 qu'il le partage avec nous. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Et aussi, ma gloire que nous pouvons regarder quand nous sommes dans la gloire avec lui. Quatre choses. Avoir part avec lui. Quel privilège pour nous.
De façon pratique, comment va-t-il s'exprimer dans notre chemin sur la terre? Jean dit, dans sa première épître, début du chapitre 5, « Celui qui aime, celui qui a engendré, aime ceux qui sont engendrés. S'il y a un lien d'amour entre Dieu et nous, entre le Seigneur et nous, ce lien se trouve de façon toute naturelle, élargie à nos relations avec ceux qui participent du même amour. Nous l'aimons, nous aimons Dieu. Nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Nous sommes toujours dans la première épître, là. Et si nous l'aimons, lui le Père qui a engendré, eh bien nous aimons ceux qui sont engendrés de lui, tout naturellement. Et le Seigneur donne cela comme un commandement. Et il ne donne pas beaucoup de commandements. Ce sont des exhortations en général. Mais voilà quelque chose qui pour nous a force de loi. Et qu'il présente comme un commandement nouveau. Il l'a présenté de la même façon au chapitre 13, au verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. » Que vous vous aimiez l'un l'autre. Et comme ici, déjà, au chapitre 13, il donne la mesure ou la nature de cet amour, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. Et il reprend la même façon ici, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et il reprendra encore au verset 17, « Je vous commande ces choses, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. » Quelle insistance! Nous disons, le Seigneur ne multiplie pas les commandements. Mais voici un commandement qu'il donne par trois fois, et dans les mêmes termes. Et avec cette référence inimitable, « comme je vous ai aimé. »
Ici, les commandements, commandements du Père, commandements du Fils, ça ne nous amène pas sur le terrain de la loi. Ces commandements qui sont là présentés, c'est l'expression de ce qu'est le Père, l'expression de ce qu'est le Fils. Or, le Fils est amour. Nous avons reçu, c'est ça qui est important, nous avons reçu la nature qui aime. Il ne s'agit pas de la légère, la chair n'aime pas, dans ce sens-là. Nous avons reçu la nature qui aime, la nature de Dieu. Dieu est amour et lumière. Par conséquent, ici, au fond, le commandement que le Seigneur me donne, c'est celui-ci. Laissez agir la vie que vous avez en vous. Et elle manifestera naturellement l'amour. Ce qui nous empêche justement de réaliser la chair, c'est que nous ne réalisons pas ce jugement constant de nous-mêmes. Et c'est la chair qui, pour nous, nous empêche cette manifestation de la vie divine. La mesure qu'il nous a donnée, comme moi, je vous ai aimé. Et comme on peut dire, si je jouis de cet amour, si je suis rempli de cet amour, je verrai mes frères et mes sœurs à travers cet amour. Je verrai en mon frère et en ma sœur quelqu'un que le Seigneur aime, quelqu'un en qui le Saint-Esprit habite. Parce que là, il y a aussi la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. L'amour divin est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et on peut dire que toutes ces choses, toutes ces vérités importantes, mais qui nous humilient quand nous sommes placés devant les pensées, les commandements du Seigneur, alors que nous sommes si loin de réaliser cela. Le Seigneur n'abaissera jamais la mesure. La mesure de sainteté ou la mesure d'amour, elle est donnée dans sa perfection. Le Seigneur ne dit pas, vous devez être la lettre de Christ. Vous êtes la lettre de Christ. La lettre de Christ. Et pour que, justement, placés devant une telle mesure, nous puissions nous humilier devant lui et reconnaître que nous sommes loin de réaliser ces choses. Et puis d'un autre côté, pas être découragé, mais tendre avec effort vers la réalisation de ces choses qui sont placées là-dedans. Et c'est important ici parce que nous avons ceci, que vous vous aimiez les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui qui laisse sa vie pour ses amis, pour ses amis. C'est pas, ne voyez pas, ici que c'est en effet l'amour qui s'est manifesté à l'égard du pécheur, mais c'est l'amour qui se déploie, qui se manifeste devant ceux et à l'égard de ceux que le Seigneur amène sur ce terrain-là d'amis.
Personne n'a un plus grand amour que celui-ci. Il laisse sa vie pour ses amis. Et nous revenons encore à la première épître de Jean. Jean nous dit au chapitre 3, sa première épître, verset 16, « Par ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. Et nous, nous devons laisser nos vies pour les frères. Il nous a aimés jusque-là. Il a donné la marque suprême de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci. Eh bien, puisque nous sommes engagés sur le même chemin, la mesure, Jean la tire dans son épître, là où il y a alors les enseignements. Nous devons laisser nos vies pour les frères. Et c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de mourir, alors, ce n'est pas tant cela. L'occasion de mourir pour son frère sera peut-être rare, mais l'occasion de vivre sa vie, de laisser sa vie pour son frère, dans le sens de consacrer son existence au frère, Paul nous la donne. Je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève le service que le Seigneur m'a confié, j'achève ma course, et le service que le Seigneur m'a confié. La vie de Paul était tout entière donnée pour ses frères. Il a eu le privilège ensuite de donner sa vie en témoignage pour le Seigneur comme martyr, mais auparavant nous pouvons dire que sa vie était là pour les frères, il donnait... Sa vie était pour les frères, il vivait pour eux. Et si nous dirions facilement, bien, l'enseignement de Jean, nous devons laisser nos vies pour les frères, c'est quelque chose de vraiment très occasionnel et exceptionnel, mais non, d'une façon absolument générale. De même que Paul disait, pour moi, vivre, c'est Christ, sa vie, c'était Christ. De la même façon, je ne tiens pas ma vie pour précieuse. Elle n'est pas pour moi. Ma vie, elle est pour mes frères. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Oh, quelle parole du Seigneur! Il était entouré d'ennemis. Le monde lui était hostile. Il y avait des ennemis autour de lui. Et voici un petit noyau auquel il adresse ses paroles. Vous êtes mes amis. Qu'est-ce que cela comporte? Des relations d'amour, oui. Et puis aussi de confiance, de liberté. Nous voyons aussitôt la définition qu'il en donne. L'ami, c'est celui à qui on ouvre son cœur, celui à qui on livre ses secrets. L'esclave ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Christ comme homme, quel trésor il avait. Tout ce qu'il avait connu de son, tout ce qu'il avait entendu de son Père. Et il en parle à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il affirme que son ministère ici-bas, c'est le ministère de l'envoyé, qui ne parle pas de par lui-même, mais qui dit les paroles qu'il a entendues de son Père. Un trésor magnifique. Sa joie, sa nourriture. Il ouvre cela aux disciples. Et tout ce qu'il avait entendu de son Père, il le donne à connaître. Vous êtes mes amis. On n'a pas manqué à ce propos d'évoquer la grande figure de l'Ancien Testament qui est Abraham. L'un des points culminants de la course d'Abraham, c'est cet épisode du début du chapitre 19, je crois, de la Genèse, où Dieu dit, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mais c'est mon ami. Mais je parle. C'est mon ami. Je ne peux pas aller faire cette grande chose sur Sodome sans en parler à Abraham. C'est mon ami. Et nous savons qu'il a été appelé ami de Dieu. Trouvons cela trois fois dans l'Écriture. Il est appelé ami de Dieu dans les Chroniques. Ésaïe 41. Et puis en Jacques. Jacques nous dit précisément, il a été appelé ami de Dieu. Le confident. Un grand homme d'Ancien Testament aussi. L'Éternel parlait avec Moïse, comme avec son ami. Mais quelle intimité, quel titre. Je vous appelle ami. Il les avait enseignés avec patience. Et tous ces enseignements revêtait, pour ainsi dire, le caractère d'une relation de maître à disciple. Ici, c'est quelque chose de plus intime. Ce n'est pas seulement le maître qui parle à ses disciples, mais c'est celui qui parle à ses amis. Il n'est pas là pour les enseigner, ce n'est pas tant ses enseignements que la communication de ce qui est dans son propre cœur, les paroles que j'ai reçues de mon Père, ce qui est mon trésor à moi. Je vous le donne.
Trois choses qui ont été faites pour ses amis, je le répète, comme on vient de le dire. Au verset 13, il s'est dévoué pour eux jusqu'à la mort. Il laisse sa vie pour ses amis. Au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites tout ce que moi je vous commande. Il attend donc quelque chose en retour. Au verset 15, je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. En résumé, il demande notre confiance. Ce sont trois choses combien précieuses.
Le Seigneur leur dit en quelque sorte, il y a quelque chose qui ne doit pas être connu publiquement, mais qui doit être connu seulement de vous, mes amis qui êtes autour de moi. Et le Seigneur leur donne les communications divines qu'il a reçues de son Père. On a fait allusion tout à l'heure à l'Éternel qui parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Il est important de noter que c'est après le plaidoyer remarquable que Moïse a fait en faveur d'un peuple coupable que nous trouvons cette expression dans le chapitre suivant. C'est extraordinaire de voir dans le ministère de Moïse l'intercession pour un peuple coupable. Et Dieu lui dit dans ce chapitre 32, « Selon ta parole, j'ai pardonné à ce peuple. » Chose extraordinaire. Alors, on n'est pas étonné de trouver dans le chapitre suivant que l'Éternel parlait face à face avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Mais les communications divines, nous en voyons déjà quelque chose dans les enseignements lorsque le Seigneur parlait en parabole. Il parlait en parabole à ceux qui ne recevaient pas sa parole, mais dans le particulier, il leur expliquait toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y avait un cercle intime autour du Seigneur Jésus, et c'est le Seigneur Jésus, le divin maître, le maître qui enseigne, comme nous le trouvons souvent dans les Écritures, dans les Évangiles, c'est le maître qui enseigne, qui leur faisait comprendre toutes ces paraboles. Il y a deux choses aussi que je voudrais noter dans les passages que nous avons cités tout à l'heure concernant les choses qui appartiennent uniquement au Seigneur Jésus. Par exemple, il y a une joie que nous ne pouvons jamais partager. C'est celle que le Seigneur avait devant lui. Quelle était cette joie? C'était d'endurer la croix, de mépriser la honte. Et quelle était la joie qui était devant lui? C'était d'être rassasié, psaume 16 à la fin, d'être rassasié de la face de son Père. Car il y a, disait le Seigneur, des plaisirs à sa droite pour toujours. Eh bien, cette joie-là, il n'y a que lui qui peut la connaître. Et quand dans le chapitre 17, ce n'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui, le Seigneur dit « ma gloire », eh bien, sa gloire, c'est en rapport avec la croix, parce qu'il fut seul sur la croix, prenant la coupe amère de son Père. Il fut seul sur la croix, il fut seul, allé devant les disciples, quand il est dit dans l'évangile de Luc qu'il allait son chemin vers Jérusalem, enseignant. Personne ne pouvait le suivre là. Il pouvait dire aux disciples, vous me laisserez seul, vous serez dispersés. Et l'Ancien Testament annonçait cette solitude du Seigneur lorsqu'il allait à la croix. Quand, épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon. Frappe le berger et le troupeau sera dispersé, ou les brebis du troupeau seront dispersées. Personne ne pouvait suivre le Seigneur à la croix. Tu fus seul sur la croix, buvant la coupe amère, sans qu'un cœur vînt répondre à ton cri douloureux. Eh bien, il y a la gloire qui correspond aux souffrances qui étaient la part du Seigneur et qui avaient été annoncées par les prophètes, mais qui devaient être suivies des gloires qu'il connaîtrait pour lui-même. Que le Seigneur veut que nous jouissions
de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a été pour nous, de ses souffrances expiatoires et de sa mort expiatoire, pour que nous soyons toujours avec lui, dans la maison paternelle, là où il a préparé la place que nous allons occuper bientôt.
Et il est notre ami. À un ami, on fait de douces confidences et de précieuses communications. Mais il désire en retour que nous le prenions aussi avec toute la révérence que nous lui devons comme notre ami. Et il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à Jésus. La solitude, il l'a connue et la solitude, nous la connaissons. Plus ou moins relative, mais c'est inévitable. Il veut être l'ami de nos cœurs, l'ami de chacun de nous. Il veut que nous lui fassions ses confidences, que nous ne gardions pas pour nous telle ou telle chose, tel ou tel fardeau, que nous le lui apportions pour le déposer sur son cœur rempli d'amour. Mais pour pouvoir faire cela, il faut le connaître comme le Seigneur, comme le Sauveur d'abord. Et c'est peut-être le moment de nous demander, « Toi, le connais-tu ainsi comme ton Sauveur personnel ? As-tu eu affaire à lui ? T'es-tu vu avec ton péché, avec ta souffrance ? On vient de nous parler tout à l'heure de ses souffrances de la croix. Ce qu'il a dû souffrir, ce qu'il a dû endurer, parce que nous sommes pécheurs, à cause du poids de ses péchés, devant Dieu. Il a tout pris, il a tout supporté. Est-il ton sauveur? C'est le premier stade. Et puis, il y a les stades suivants. Jusqu'à ce que nous arrivions à ce stade si précieux, celui que nous montre l'apôtre Jean. Non seulement c'était son ami, mais plus que cela, il connaissait l'intimité de l'amour. C'était l'ami intime qui prenait la place d'intimité et que l'on retrouve dans le sein de Jésus. Savons-nous ce que cela veut dire? Vivons-nous quelque chose de cela? Rien entre lui et nous. Tout près de son cœur, le nôtre battant à l'unisson du sien. Il veut être cela pour chacun de nous.
Que vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, dit à ses bien-aimés, au verset 28, 2 Corinthiens 11, 28, il y a ce qui me tient à siéger tous les jours, la sollicitude pour toutes les assemblées. Dans ce même épître, au chapitre 12e, au verset 15, or moi, très volontiers, je dépenserai et je serai entièrement dépensé pour vos âmes. Si même vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé. Dans Philippiens 2, au verset 20, je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi. Pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne. Parce que tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ. Aimez-vous comme moi, je vous ai aimé. L'apôtre Paul pouvait dire à ses bien-aimés dans la foi, très volontiers je dépenserai et je serai entièrement dépensé pour vos âmes. Qu'est-ce que l'apôtre Paul conduit par la puissance de l'Esprit, recherché chez tous ses bien-aimés dans les différentes assemblées, c'est cet attachement au Seigneur Jésus. Cette vie pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Seigneur Jésus. Et il était rempli, comme nous l'avons lu, de cette sollicitude pour toutes les assemblées. Cela le tenait à siéger tous les jours. Il était constamment étreint par ce besoin de prier pour tous ses frères, pour toutes ses sœurs, dans les divers rassemblements, afin qu'il y ait ce fruit pour la gloire de Dieu, cette communion, ce témoignage pour la gloire de Dieu dans ce monde. Il était étreint par ce besoin. C'était une sollicitude. Nous avons cette expression-là, si forte, cette sincère sollicitude dont l'apôtre parle. Je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de tout ce qui vous concerne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Non pas un amour qui passe par-dessus les mandements, mais un amour justement parce que nous aimons comme Christ, parce que l'amour de Jésus est versé dans nos cœurs, qui est jaloux à l'égard de Christ, afin que rien chez moi-même, d'abord, bien sûr, c'est le point de départ, mais chez notre frère, ne vienne voiler, ne vienne faire obstacle à ce que Dieu recherche pour nous. Alors, l'apôtre pouvait dire, dans ce 2 Corinthiens 12, « Si même vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé. » Combien nous sentons là le sommet de ce que Dieu, par son esprit, veut produire en nous. Il n'est pas toujours facile de faire remarquer à un frère un chemin dans lequel il peut se fourvoyer. Mais, nous avons cet enseignement du Seigneur, aimez-vous l'un l'autre. L'amour ne passe pas par-dessus le mal. L'amour est exigeant. L'amour, comme on l'a dit, l'amour de Dieu est un amour vrai, qui harmonise l'amour avec la vérité, avec la lumière. Mais, en même temps que l'amour peut nous pousser à faire une remarque à un frère, et bien sûr, cette remarque sera faite dans la mesure où nous nous sommes laissés laver les pieds, nous-mêmes, par le Seigneur Jésus. Et alors, elle sera empreinte de toute l'affection, de toute la douceur. Et peut-être, chez nos frères ou chez nos sœurs, il y aura un ressentiment. Mais l'apôtre Paul pouvait dire, si même vous aimant davantage, je devais être moins aimé. Ce qui compte, c'est cette communion avec le Seigneur Jésus. Et soyons certains, bien-aimés, que si nous restons bien près du Seigneur, si nous nous sommes laissés laver les pieds par le Seigneur lui-même, réalisant que nous ne sommes rien et que nous avons en nous des imperfections dont nous avons toujours besoin, auxquelles nous avons toujours besoin de veiller, même quand nous parlons à un frère, eh bien, soyons certains, bien-aimés, que le Seigneur nous conduira pour agir selon sa pensée, et même si, pendant quelque temps, il peut y avoir eu chez un frère ou chez une sœur, l'idée de nous, un ressentiment, l'amour de Dieu sera le plus fort et tout contribuera à la gloire de Dieu pour notre bien personnel, et pour le bien de notre frère, et pour le bien de l'Assemblée. Combien cela est grand. Aimez-vous comme moi, je vous ai aimé. Que l'amour fraternel demeure, joignez à l'affection fraternelle l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même, c'est Christ lui-même,
C'est Dieu qui se révèle dans la personne de Jésus. Chers amis, ce sont des choses grandes, des choses que ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons les faire réaliser à chacun d'entre nous et même à nous-mêmes, c'est seul le Seigneur qui peut les produire dans nos cœurs, dans la mesure où nous restons occupés du Seigneur, humblement à ses pieds, dans le sentiment que nous ne sommes rien, uniquement des objets de grâce.
Il me soit permis de revenir encore sur ce verset. Je ne vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. Dans le chapitre 17, nous trouvons les communications divines. Et quel amour le Seigneur a pour nous de nous faire partager en quelque sorte les communications qu'il a eues avec son Père dans cette communion ininterrompue qu'il a caractérisée pendant toute sa vie ici-bas. Mais j'aimerais exprimer cela d'une autre façon, d'une manière biblique si on veut. Parmi les hommes forts de David, il y avait un certain Benaïa, fils de Jéhoïada, qui avait sa place dans les audiences privées de David. Eh bien, c'est la place que le Seigneur nous fait. Les audiences privées.
Nous pouvons être émerveillés de la manière dont la parole nous place en rapport avec le Seigneur. Nous pouvons être émerveillés de la position dans laquelle la parole nous voit avec le Seigneur. Combien nous sommes unis à lui. Et certainement, dans notre vie ici-bas, dans notre vie chrétienne, il n'y a rien d'aussi élevé que d'être dans un état, d'être dans un état. Parce que si l'Éternel disait « Cacherai-je à Abraham ?» Mais il est ajouté « Moi, je le connais. Je le connais. Je le connais. » Les secrets de l'Éternel, les communications divines, est-ce que nous connaissons un peu ça? Est-ce que nous avons de tels rapports? C'est pour nous, ça. Ou pas le fond, c'est pour nous. Ça s'adresse à chacun de nous, à chacun des rachetés du Seigneur. Connaissons-nous quelque chose de ces communications divines? Le psalmiste pourrait dire dans le psaume 25, les secrets de l'Éternel. Et la note dit en bas, les communications divines sont pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. On a l'impression que ce que nous avons perdu en premier lieu, c'est cette crainte de Dieu. Nous devrions demander toujours, comme le psalmiste disait, « Unis mon cœur à la crainte de ton nom. » Qu'est-ce qui doit être précieux pour nous? Qu'est-ce qui doit avoir une valeur si grande? C'est ce que nous recevons du Seigneur. Pensez donc. Ça suppose une communion avec lui constante, une communion avec le Seigneur réalisée. Et le Seigneur le connaît. Il n'appelle pas tous les chrétiens ses amis, tous ses amis. Nous avons ainsi des pensées si remarquables, si précieuses, et qui sont là à l'adresse de racheter. Combien nous avons besoin de demander que ces choses ne restent pas connaissances intellectuelles. C'est un grand danger. Grand danger. Je peux parler de ces vérités, je peux parler de ces pensées, je peux en parler scripturairement, mais ce n'est pas là la force. C'est de comprendre. C'est de me placer devant le Seigneur et c'est de dire, le Seigneur me parle. Le Seigneur s'adresse à moi. Le Seigneur ainsi m'invite à cela. Dans quelle mesure je vais ainsi écouter le Seigneur et où est-ce que j'en suis à cet égard? Où est-ce que j'en suis à cet égard? C'est important de se poser cela devant le Seigneur. Il faut que nous fassions des progrès. Il ne faut pas que nous restions simplement ceux qui se reposent sur une œuvre accomplie, c'est très précieux, sur ainsi la rédemption qui a tout réglé avec Dieu, tout réglé. Mais il faut que nous progressions. Et là, un des progrès remarquables, c'est celui-là. Je vous appelle ami. Je vous appelle ami. Parce que l'état spirituel est tel, l'intérieur est tel, que le Seigneur peut s'adresser à nous et nous révéler ses secrets, ses pensées, ses communications. Mais nous devrions avoir soif de ces choses. Nous devrions avoir un désir de ces choses. Nous devrions ainsi réaliser un peu plus ainsi cette relation dans laquelle nous sommes placés. Aucun racheté, aucun croyant ne peut dire que ses paroles ne s'adressent pas à lui. Aucun. Qu'il soit jeune dans la foi, qu'il soit plus vieux, plus âgé dans la foi, ses paroles s'adressent à nous, par le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire, et nous ne pouvons pas dire, que le Seigneur ne nous aime pas tous. Tous. Si nous manquons, si nous marchons dans un chemin de désobéissant, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui arrive? C'est que le Seigneur ne peut pas avoir communion comme il l'aurait avec l'enfant qui désobéit, comme il l'a avec un enfant qui est obéissant. Les échanges avec le Seigneur sont interrompus. Et c'est ça qui est important. Les échanges avec le Seigneur sont interrompus. Le Seigneur ne peut pas nous traiter ainsi comme il le disait là, ici, là, comme un ami. Si nous ne gardons pas ses commandements, si nous marchons dans un chemin de désobéissance, eh bien que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir profiter de ces privilèges qu'il nous accorde, d'ouvrir sa parole, d'entendre sa parole, qu'il nous accorde la grâce de mettre en pratique ces choses afin qu'il soit glorifié en nous.
Dans le verset 15, nous trouvons cette expression « Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait. » Mais quand nous voyons le verset 20, nous trouvons cette expression « Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite, l'esclave ne sait pas plus grand que son maître. » Alors là, nous voyons que le Seigneur nous compare à des esclaves. Et ça veut dire que le mot esclave, ici, qu'il faut bien distinguer, nous ne sommes pas d'esclaves dans le sens qu'il ne faut qu'obéir sans comprendre ce que nous faisons. Ça, c'était le caractère de l'obéissance du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils avaient reçu les commandements de Dieu, mais il fallait l'intelligence du Saint-Esprit de comprendre les pensées de Dieu. C'était une religion extérieure. Ils ne connaissaient pas les pensées de Dieu. C'était une obéissance d'un esclave sans qu'il comprenne les pensées de Dieu. L'esclave ne sait pas ce que son maître fait. Nous ne sommes pas d'esclaves dans ce sens, mais nous sommes des amis parce que le Seigneur nous a révélé les pensées du Père. Mais l'autre sens, l'autre signification de ce mot, c'est que l'esclave est un serviteur et il n'a qu'à suivre son maître. Nous avons vu que notre amour vers le Seigneur est caractérisé par l'obéissance, mais l'obéissance caractérisée par intelligence. Une intelligence par le Saint-Esprit. Dites ici, mais nous le savons d'autres passages des Écritures. Mais quand même, l'obéissance. Et ça veut dire que nous suivons le chemin de notre Seigneur. Alors, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. Quel était le sort du Seigneur
dans ce monde. Il avait un témoignage à rendre dans ce monde, parce qu'il venait, pour ainsi dire, d'un autre monde qui était différent de ce monde dans tous les aspects. Les trois grandes vérités de cet évangile, ce sont la lumière, la vraie vie et le vrai amour. Ce sont les trois caractères de ce monde d'où venait le Seigneur, de la maison du Père. C'est une maison de lumière divine, de la vie divine. Mais ici, nous nous trouvons dans un monde qui est contradictoire, qui est caractérisé par des contrastes. Pas la vie, mais la mort, Jean 5, verset 24. Pas la lumière, mais les ténèbres, chapitre 1. Ici, troisièmement, la haine. Le Seigneur était venu pour révéler l'amour du Père, l'amour de Dieu. Mais la réponse du monde, c'était la haine. Et maintenant, il nous laisse comme un témoignage sur cette terre pour révéler en nouveau ces mêmes caractères, la vraie lumière divine, la vraie vie divine, et aussi cet amour divin. Eh bien, quelle sera la réponse de ce monde? Nous avons changé, nous sommes changés dans notre caractère par le Seigneur, mais le monde n'a pas changé son caractère. Le monde est encore caractérisé par la même haine, par la même mort, et par les mêmes ténèbres. Alors, quelles seront les réponses de ce monde envers nous? Quand nous rendons ce témoignage, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Le monde n'a pas changé son caractère. Ça, c'est notre chemin. Alors, pour le chrétien, il faut connaître le caractère du monde où il appartient maintenant, le monde, pour ainsi dire, de la maison du Père, mais aussi pour son chemin ici sur la terre. Il faut connaître le vrai caractère du monde dans lequel nous vivons.
Celui qui m'a envoyé, venons-nous de lire, fin du verset 21, ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Dans tout cet évangile, le Seigneur ne veut être autre chose que l'envoyé. C'est l'un de ses titres, dans cet évangile, il est l'envoyé. Envoyé, cela suppose qu'il y a quelqu'un qui a donné mission. Et il est là sous la dépendance entière de son Père. S'il est l'envoyé, c'est que son Père l'a envoyé, celui qui m'a envoyé. Et nous sommes appelés à poursuivre sa mission dans ce monde, mais de la même façon que lui. Non pas de notre propre mouvement, mais parce que c'est lui qui nous envoie. Et nous revenons en arrière au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Si la fin du chapitre présente les chrétiens comme les continuateurs du témoignage de Christ, comme les témoins, c'est parce qu'ils sont choisis et établis par Dieu pour cela. Au début de la première épître à Timothée, l'apôtre s'exclame « Miséricorde m'a été faite. Il m'a établi dans le service. » Moi qui étais un persécuteur, un outrageux, il m'a établi dans le service. Il m'a estimé fidèle. Il m'a établi dans le service. Le Seigneur l'avait choisi, l'avait établi. C'est le même terme que nous trouvons ici. C'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi. Afin que vous alliez, voilà bien, nous sommes établis pour un service, établis pour aller. Nous entrons là, dans ce verset, par transition, dans
cette dernière partie du chapitre où nous trouvons le chrétien témoin pour Dieu à la suite de Christ. Je vous ai établi pour que vous alliez. Il ne s'agit pas de rester dans une vie contemplative. Il faut aller vers ce monde qui est un monde de haine, comme on vient de le souligner. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Voilà maintenant un caractère peut-être un peu plus particulier du fruit. Que vous alliez et que vous portiez du fruit. Que votre témoignage soit fructueux. Les disciples sont envoyés pour, dans le monde, pour porter ce témoignage de la part de Dieu, afin que du fruit soit produit. Du fruit en vie éternelle. Que les âmes soient amenées. Ils étaient 11 envoyés ainsi. Et puis par la suite, comme le nombre des envoyés se multiplie, c'est le travail de Dieu. Un fruit, ah, c'est la moisson qui remplira les greniers célestes. Un fruit qui demeure, un fruit qui sera pour l'éternité. Les multitudes qui, ainsi, par les témoignages successifs de ceux qui sont choisis et établis pour aller, sont amenés au Seigneur. Et alors là, dans ce service qui va comporter de faire face à un monde opposé, toutes les ressources de Dieu sont nécessaires. Et nous trouvons répété ce que nous avons vu déjà au verset 7. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce sont les ressources pour ce service. Les ressources pour ceux qui vont aller. Eh bien, où vont-ils? Ils vont vers un monde ennemi. Un monde qui a crucifié leur Seigneur. Un monde dont la méchanceté va être étalée, là, dans la suite. Mais avant de présenter aux disciples toute cette opposition à laquelle ils vont être exposés, lui-même, il a trouvé la contradiction des pécheurs contre lui-même. Avant, il donne deux choses. D'abord, que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Et ensuite, au verset 17, la reprise, la répétition de ce qu'il a donné comme commandement au verset 12. Au verset 12, c'est ici mon commandement. Il reprend, je vous commande ces choses, c'est que vous aimiez les uns les autres. Vous allez au-devant d'un monde de la part duquel vous ne pouvez attendre que haine. Vous appartenez à une toute autre sphère. Vous allez au milieu des ténèbres, vous êtes la lumière. Vous allez au milieu de la haine, vous êtes l'amour. Et avant de vous exposer là, toute cette haine que le monde manifestera aux disciples parce qu'ils sont du Seigneur, il rappelle, oui mais vous allez au milieu d'un monde d'hostilité, mais il y a là un petit centre. Vous aimez les uns les autres. Et souvenez-vous, c'est mon commandement, que vous aimiez les uns les autres. Alors, en contraste, aussitôt, apparaît le caractère du monde. D'un côté, voilà les disciples, bien unis par la parole du Seigneur, selon son commandement, dans un amour réciproque. Et ils ne sont pas du monde. La barrière est franchement établie. Une frontière. Une autre sphère. C'est un autre monde, pourrions-nous dire. Le monde de l'amour. Le monde. Le monde tout court. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Oh, là, si vous étiez dans le mensonge et dans les ténèbres, eh bien, il vous accepterait très bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde. Et à l'avance, nous retrouvons ici les expressions si nettes de la prière du chapitre 17.
Ils ne sont pas du monde parce que moi je ne suis pas du monde. Déjà ici, c'est ce qu'il dit au père. Déjà ici, c'est ce qu'il leur dit aux siens. Vous n'êtes pas du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient du Seigneur. Et alors ? Parce que vous n'êtes pas du monde. Et c'est moi qui vous ai choisi du monde. Il le répète. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi du monde. Grand privilège. Mais qu'est-ce que ce privilège entraîne ? L'opposition, la haine du monde. Le monde voué. N'en soyez pas surpris. À plusieurs reprises, le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses à l'avance, afin que quand cela arrivera, bien, vous sachiez que je vous les ai dites. Souvenez-vous, quand cela arrivera, de la parole que je vous ai dite. Les disciples ne seraient pas pris au dépourvu. Ils ne seraient pas là devant quelque chose d'inattendu. Le Seigneur les avait bien prévenus à l'avance, et leur foi ne pourrait qu'en être fortifiée. Nous trouvons cela de façon plus nette et plus développée dans le chapitre 16. Et je vous dis ces choses à l'avance. Je vous le dis bien. Sachez bien que le monde vous haïra. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Ne cherchons pas l'amitié du monde. L'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Et si nous avons l'amitié du monde, c'est qu'il y a infidélité de notre part. Tel est le maître, tels sont les esclaves. Ont-ils gardé sa parole ? Absolument pas. Garderont-ils la vôtre ? Pas davantage. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Au début du chapitre des Actes, au début du livre des Actes, nous voyons les disciples persécutés et heureux d'avoir souffert pour ce nom. Persécutés pour le nom de Christ. Ils vous feront ces choses à cause de mon nom. Vous êtes de Christ, vous portez sur vous le nom de Christ, vous le manifestez, votre part, c'est la persécution. Et ne pas renier son nom, le caractère des fidèles du dernier temps, le dernier témoignage selon Dieu, selon le cœur de Dieu sur la terre, peu de force, mais ne reniant pas son nom. Et à cause de ce nom, précisément, éprouvant la haine du monde. Mais quelle part ? Ah, c'est une gloire d'être là, aux côtés du monde, dans l'opprobre, dans le rejet. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui.
Dans l'évangile de Jean, nous trouvons peut-être plus de 40 fois que le Seigneur Jésus est l'envoyé du Père. Et il y a un verset d'une extrême importance que je vous lirai au chapitre 5, verset 43. « Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » C'est l'Antichrist. Eh bien, quelle précieuse part le Seigneur nous fait. Le Seigneur, c'était l'envoyé du Père. Et c'est à partir de ce moment que se fait la séparation entre ceux qui sont du Père et qui ont cru au Père par le Fils et ceux qui ne le reçoivent pas, mais qui sont prêts à recevoir celui qui viendra en son propre nom, c'est-à-dire l'Antichrist. Chose terrible. Mais ce qui est précieux pour nous, bien-aimés, c'est de voir la gradation dans ce que le Seigneur nous dit au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, heureusement, parce qu'il y a longtemps que nous l'aurions abandonné. Il faut parfois venir assez âgé, comme Élie, pour dire « je ne suis pas meilleur que mes pères ». Et la pensée de la chair est toujours, est continuellement inimitié contre Dieu, quel que soit notre âge. Mais le Seigneur nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez. Ah, on ne doit pas rester sur place. La vie chrétienne ne peut pas être stationnaire, et puis le service nous contraint. L'apôtre peut dire, l'amour de Christ nous étreint. De sorte que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, ne pas parler des choses que nous connaissons, que nous avons entendues. L'apôtre Paul dit, l'amour de Christ nous étreint, de sorte que nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à celui qui pour nous est mort et a été ressuscité. Choisi du Seigneur, établi par lui, envoyé par lui. Mais ce n'est pas tout. Allez, afin que vous portiez du fruit qui demeure, et puis c'est toujours, c'est une croissance, c'est comme le sentier du juste, qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Eh bien, repassez tous les passages qui sont contenus dans ce verset 16, choisis, établis, pour aller, pour porter du fruit qui demeure, et afin que tout ce que vous demanderez au Père, en son nom, il vous le donne. Je termine par une allusion que nous trouvons dans la troisième épître de Jean, ceux qui sont sortis pour le nom de Jésus.
En relation avec sauvé ou perdu. Mais il est en relation avec ce service, ce fruit qui demeure et qui glorifiera Dieu. Dans Jérémie, nous trouvons au chapitre 1er que Dieu, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, c'est chapitre 1er, verset 5, je t'ai connu et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel le dit, ne dis pas je suis un enfant, car pour tout ce pourquoi je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et nous savons plus loin que Jérémie pourra élever comme une plainte, et disant chaque fois qu'il ouvre la bouche, il est pris à contradiction. Mais il a été établi, et il a été choisi pour un service. Paul, dans le chapitre 9 des Actes, ce sera aussi quelque chose de semblable. Verset 15, que cet homme m'est un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël, car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. C'est Dieu dans sa grâce, dans sa connaissance de toutes choses, qui peut ainsi disposer de ses esclaves, les former pour les établir, et afin qu'il y ait du fruit et du fruit qui demeure.
Voici une expression qui peut arrêter quelquefois. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Et un peu plus loin, n'est-ce pas, si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Cela ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y avait pas de péché en Israël. Pauvre peuple, il était entièrement dans le péché. Mais la venue du Seigneur est là pour manifester le caractère irrémédiable de cet état de péché. Voilà ce que la portée de cette expression. Le péché est consommé dans le rejet du Fils. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que notre n'a faites, des œuvres toutes de grâce, la dernière façon dont Dieu parle à ce peuple, c'est en son Fils bien-aimé, et c'est en grâce parfaite. Ils n'ont pas de prétexte. Pas de prétexte pour leur péché. Oh, le péché était grand. Mais voici une manifestation de grâce absolument extraordinaire, inattendue, selon Dieu. Et il n'y a pas d'écho. Et c'est ainsi qu'il est établi, manifesté, que c'est un péché irrémédiable. L'Éternel avait déjà fait largement l'expérience de ce qu'est le peuple, de ce qu'est l'homme plutôt, dans le peuple qu'il avait choisi pour l'expérience. Mais là, la venue du Christ s'était manifestée de façon complète, que non seulement il y avait un peuple représentant l'humanité tout entière, plongé dans le mal, dans l'opposition à Dieu, mais qu'il y avait une opposition impossible à surmonter. Ce que Dieu pouvait faire de plus pour que soit surmonté cet obstacle entre l'homme et lui, il le faisait en son Fils. Rien à faire. C'était le péché irrémédiable. Que restait-il à faire ? Créer un homme nouveau. Il fallait mettre de côté, c'est la mise de côté absolument de l'homme. L'homme est démontré là par la venue de Christ sur la terre, par tout son ministère d'amour et par le rejet qu'il a terminé dans son caractère de perdition irrémédiable. Qu'y a-t-il à faire ? Finissons-en avec l'homme dont le souffle est dans les narines. Car quel cas doit-on faire de lui ? Aucune ressource. Il faudra que Dieu crée un homme nouveau. Celui qui me hait est aussi mon Père. Là encore, nous trouvons associé au Seigneur d'une façon remarquable. La même haine enveloppée, le Père et le Fils sont envoyés. La même haine enveloppe le Seigneur et nous, par grâce, ses envoyés.
L'économie chrétienne de laquelle nous faisons partie, et nous ne pourrons jamais assez remercier Dieu de nous donner de participer à cette économie. C'est la plus riche des économies dans tout ce que Dieu s'est révélé. Eh bien, ce qui caractérise cette économie, c'est deux choses. Un homme dans la gloire, après avoir traversé les souffrances expiatoires. Un homme glorifié à la droite de Dieu. Un homme qui pouvait dire encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Et en effet, le monde ne le voit plus. Jusqu'au jour où il viendra pour juger ce monde. Mais alors, une autre vérité excessivement importante, c'est que le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et quand nous pensons à cela, dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit, combien nous nous humilions devant le Seigneur, de ce que nous le méprisons trop souvent. Et alors le Saint-Esprit, ici, dans cette fin de chapitre, est envoyé par le Fils. Par un Fils qui est dans la gloire. Dans le chapitre 14, il était le médiateur et il demandait à son Père que le Saint-Esprit soit envoyé pour que ses rachetés, ses croyants, puissent connaître les relations dans lesquelles il les avait établies. Mais ici, il nous est dit que le Consolateur viendra, lequel moi j'enverrai, d'auprès du Père. Parce que c'est toujours là, cette relation qui demeure pour nous, pour l'éternité, Dieu est notre Père. Le Seigneur pouvait dire à sa servante, lui confier le plus grand message du christianisme. Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers notre Père. Non, le Seigneur a toujours la primauté. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous sommes toujours dans cette relation. C'est pourquoi il nous est dit que le Seigneur envoie le Saint-Esprit d'auprès du Père. Et quelle est cette mission que le Saint-Esprit a quand il est envoyé dans ce saint chapitre de la part du Seigneur? C'est pour révéler aux disciples les gloires de leur Seigneur. Les gloires de leur Seigneur. C'est pour les faire entrer dans les gloires de celui qui a été élevé au plus haut des cieux, parce qu'un jour, il a été élevé entre le ciel et la terre. Et maintenant, il est élevé au plus haut des cieux. Et c'est pourquoi lui rendra témoignage de moi. De moi dans la gloire. Et c'est précieux. Oh, que Dieu nous accorde la grâce d'écouter la voix de son esprit. Quand le Saint-Esprit agit en nous, de quel côté va-t-il nous tourner? Jamais du côté du monde. Jamais, jamais. Le Saint-Esprit agissant en nous tournera toujours nos regards, nos pensées vers une seule personne. Christ dans la gloire. Comme aussi dans le chapitre 14, le Saint-Esprit était là pour leur rappeler toutes les choses que le Seigneur leur avait dites et pour leur en révéler d'autres. Mais ici, c'est le Christ dans la gloire. Et les disciples, merveilleux, étaient associés à ce témoignage. Ils étaient associés naturellement. Ils ne pouvaient pas accomplir ce témoignage sans le secours du Saint-Esprit. Mais ils étaient associés. Mais alors eux, de qui parlaient-ils, ces disciples? D'un Christ qu'ils avaient vu marcher dans ce monde. D'un Christ abaissé, d'un Christ humilié, d'un Christ qui était là, on pourrait dire leur compagnon. Eh bien, ils pouvaient rendre témoignage d'un tel Christ. C'est pour ça que lorsqu'il a fallu choisir un autre apôtre, il a fallu prendre celui qui avait vu le Seigneur marcher dans ce monde. Et nous trouvons une pensée au verset qui nous souligne le double témoignage dans le chapitre 5 des Actes. Ce que dit Pierre, nous au verset 32 du chapitre 5. Et nous sommes témoins de ces choses. Ainsi que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà les doux témoignages des disciples et du Saint-Esprit. Ce qui est important pour nous, ce qui est important, puisque nous savons que la vérité ne peut pas être connue de nous, que nous ne pouvons pas entrer dans la vérité. Puisque nous savons que nous ne pouvons pas discerner les gloires du Seigneur par nous-mêmes. Puisque nous savons que tout ce qui se fait pour Dieu est fait par Dieu, par son Esprit. Alors la chose importante pour nous, puisque nous a été donné le Saint-Esprit qui nous a été donné, la chose importante, c'est de ne pas le contrister. Et vous savez, on a dit, le Saint-Esprit est très délicat. Très délicat. Rien ne peut le contrister. Et quand le Saint-Esprit est contristé, eh bien, vous savez, nous perdons beaucoup. Perdons beaucoup de choses. Et c'est une perte, non seulement pour le temps présent, parce que si nous étions ainsi sous l'action du Saint-Esprit, eh bien nous pourrions connaître davantage le Seigneur dans tout ce qu'il a été, mais c'est une perte pour l'éternité. Pour l'éternité. Combien nous avons besoin que le Seigneur exerce nos cœurs et qu'il nous accorde de ne pas mépriser, sans que nous le disions peut-être, mais la manière de nous comporter peut ainsi le faire, sans que nous méprisions cet hôte divin qui est en nous, dans notre corps.